R22 Tout Monde, antenne, la galerie de Noisy-le-Sec.
Bonsoir, vous m'entendez ?
Oui.
Correctement ? Oui, ok. Bonsoir, je vous remercie de votre présence pour cette première conférence qui s'inscrit dans un cycle que nous allons mettre en place avec le Centre d'art contemporain, donc avec la galerie bien évidemment, d'autres partenaires, la médiathèque, mais on verra aussi au fil des mois à venir, nous serons, je pense, peut-être aussi nomades, fonction des thèmes que nous allons aborder. En tout cas, pour cette première séance, donc de ce grand cycle fleuve, qu'on va intituler « Une histoire d'eux », et non pas l'histoire d'eux, j'y reviendrai dans quelques minutes. L'idée est vraiment de... Pour cette question de la copie ici, précisément ce soir, c'était également une façon d'annoncer et d'être en lien avec l'exposition actuellement présentée et que je vous invite à l'issue de cette présentation de venir voir ou revoir autour de ce que nous avons appelé un apéro question de façon absolument décomplexée. Voilà, l'idée aussi de... Et moi, c'est quelque chose auquel je crois très fort de... Voilà, on peut tout à fait être curieux et forcément sortir du schéma un peu hiérarchique, même si c'est un peu le cas ce soir, et je m'en excuse, mais d'une personne qui énonce un propos et des personnes peut-être plus passives qui boivent ces propos. L'idée, c'est plutôt d'être dans une forme de réciprocité, pardon, à l'issue de cette présentation. Et cette présentation s'inscrit également en quelque sorte en préambule. Donc là aussi, vous êtes les bienvenus, et si vous avez des enfants et des adolescents, mais c'est également vers aux adultes, puisque nous avons mis en place la médiathèque Roger Gouillet et la galerie Centre d'art contemporain, un atelier de création numérique qui aura lieu jeudi prochain, donc à 18h30. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, Florence et Cyril sont présents, seront présents également à l'issue de cette présentation. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet, tout est relatif. On dispose d'une heure, ce qui est un temps relativement court, je ne vous le cache pas, pour parler d'une histoire de la copie. Alors j'ai intitulé ce cycle de conférence, terme que j'ai utilisé entre guillemets, c'est peut-être un petit peu pompeux finalement, en tout cas ce cycle de présentation, une histoire de la copie, on aura prochainement une histoire des marges, une histoire de la géographie, avec l'idée de ne pas proposer une conférence uniquement dédiée à l'art contemporain, mais plutôt de proposer quelque chose qui soit au contraire transhistorique, qui permette des allers-retours à la fois dans l'histoire et qui permette également des allers-retours et montrer qu'il existe des zones de porosité entre les arts visuels, mais également, pourquoi pas, l'architecture, la bande dessinée, la culture populaire, voilà, divers champs de, on va dire, et différentes disciplines. Alors, l'histoire de la copie, une histoire de la copie, je ne vais malheureusement pas pouvoir être exhaustif, donc c'est aussi une histoire, entre guillemets, subjective que je vous propose, qui serait peut-être mon regard, tout en sachant que là, je vais parler beaucoup, notamment de peinture, de sculpture, peut-être plus classique, avec parfois quelques petites digressions, nous pourrons peut-être parler plus dans détail d'un volet, on va dire, très contemporain, très actuel, à la galerie, d'ici une petite heure.
Excusez-moi, du coup, vous êtes, votre profession, c'est quoi ? Vous êtes prof d'histoire de l'art ou
Pardon, ah oui, je ne me suis pas présenté, excusez-moi. je suis le directeur donc, de la galerie, qui est le Centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec. Alors j'ai une formation évidemment en histoire de l'art, mais je ne me considère pas comme historien de l'art. On va dire que j'ai un regard et une spécialisation beaucoup plus ancrée dans la création, on va dire, très contemporaine, on va dire dans l'art des 20e et 21e siècles, avec une préférence évidemment pour l'art d'aujourd'hui. Mais en fait, moi, ce qui me semble assez intéressant, et l'idée aussi de ce cycle de présentation, une histoire d'eux, trois petits points, c'est de désacraliser justement un peu peut-être le rapport que l'on pourrait avoir à l'art contemporain, montrer que l'art contemporain s'inscrit dans une logique, mettre en perspective la création d'aujourd'hui avec des pratiques plus anciennes. Je pense peut-être dans une prochaine présentation, pourquoi pas aussi partir de l'art pariétal, de la préhistoire et remonter jusqu'à nos jours. L'idée, c'est pas forcément de créer un schéma prédéterminé. On va essayer de suivre une sorte de chronologie, bien évidemment, mais de rebondir. Voilà. Donc, pardon, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question. J'ai fait un cursus en histoire de l'art. Je me considère plus, on va dire, comme commissaire d'exposition. Alors, peut-être que ça pourra faire l'objet d'une présentation en soi. Mais en tout cas, je reste persuadé que l'art contemporain, l'art contemporain aujourd'hui en 2019, mais peut-être que l'art contemporain en 1880, tout comme l'art contemporain quand il était contemporain en 1723, était peut-être une façon pour les artistes de proposer leur regard sur le monde. Alors, évidemment, on vit dans le temps présent, on vit dans un monde absolument complexe, avec une multiplication des signes, de signes visuels notamment dans notre environnement quotidien, urbain, et je reste absolument persuadé que les artistes sont là pour nous permettre de poser un regard différent, de prendre le temps également de voir les choses différemment, de se poser des questions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que l'on ait les réponses ou pas. En tout cas, voilà, j'espère participer en tout cas en accompagnant les artistes et surtout en essayant de montrer qu'il ne faut surtout pas avoir d'a priori sur la création contemporaine, et ce qui est contemporain aujourd'hui sera, c'est peut-être un poncif, mais le patrimoine de demain, en quelque sorte. Du coup, je reprends donc sur une histoire de la copie. Comme je vous le disais, donc je ne vais pas pouvoir être complètement exhaustif, hein, c'est un sujet qui est très très vaste. En fait, la copie, finalement, existe depuis la nuit des temps dans les arts visuels, dès l'Antiquité, bien évidemment. Ce qui me semblait intéressant, on va commencer peut-être par quelques généralités, c'est qu'il existe des procédés également techniques, des procédés techniques qui ont permis à cette copie. On aurait pu partir aussi sur les bases étymologiques, hein. Qu'est-ce que signifie copier, quelle est la différence entre copier et plagier, quelle est la différence entre copier et évoquer. Voilà, il y a de nombreuses nuances, du coup on a malheureusement très peu de temps, donc je vais dresser une sorte de panorama un peu réduit, en survolant quelques notions qu'on pourra bien évidemment approfondir si vous le souhaitez. Donc voilà, vous parlez de quelques généralités par rapport à la copie, et tout simplement se rendre compte et s'apercevoir que la copie, dès l'Antiquité, en fait, a un rôle très important dans la diffusion des formes. Par exemple, une sculpture en bronze est obtenue à partir d'un modèle original, en général en terre, en cire ou en plâtre, qui peut ensuite être fondu à partir d'un boule. C'est ce que nous avons ici avec le schéma est peut-être un peu complexe, mais qui explique un petit peu cette technique qui est celle de ce qu'on appelle le moulage à la cire perdue. Mais en tout cas, depuis déjà le 3e millénaire avant Jésus-Christ, hein, cette notion de copie dans la statuaire, dans la sculpture, est déjà très présente. Finalement, cette technique de base de copie à travers le moulage, hein, finalement, n'a pas finalement tant changé que ça à travers les siècles. Notamment dans la sculpture occidentale, ce qui fait la différence, c'est que les techniques ont malgré tout légèrement évolué, se sont affinées, et les juridictions également ont profondément évolué et ont induit également ces notions qu'on considère aujourd'hui comme juridiquement comme étant, pourquoi pas, du plagiat. Alors, il faut savoir qu'on distingue dans la sculpture classique le bronze d'art, qui est en fait une reproduction d'un modèle, du bronze original, qui est vraiment la sculpture authentique. Donc là, pour revenir sur une des techniques, qui est le moulage à la cire perdue, Pour obtenir en fait une sculpture en métal, que ce soit en bronze, en or, en argent, en cuivre, on va donc réaliser un modèle en cire qui est ensuite recouvert d'une enveloppe que l'on dit réfractaire parce qu'elle supporte tout simplement la chaleur. Et en fondant finalement la cire, va créer une cavité modelée dans laquelle on va pouvoir ensuite injecter la matière liquide du coup qui va ensuite se solidifier donc en métal. Alors, évidemment, il y a différentes techniques, les techniques ont évolué. Le moulage à la cire perdue permet aussi d'obtenir ce qu'on appelle un moule souple, qui était dès longtemps déjà autrefois en gélatine, et qui est aujourd'hui plutôt avec des matières plastiques, notamment en élastomère, et qui va permettre de réaliser plusieurs modèles à partir d'un même original. Évidemment, au fil des siècles, alors j'ai pas forcément de visuels et de schémas descriptifs pour chacune de ces techniques, mais juste donner quelques-unes de ces techniques. La gravure sur bois aussi a bien évidemment une importance dans la copie et la façon dont les formes vont pouvoir se diffuser. Alors la gravure sur bois, je ne sais pas s'il y a des spécialistes parmi vous, vous me reprendrez si jamais je ne suis pas assez explicite. La gravure sur bois en fait consiste tout simplement dans un premier temps à esquisser sur un bloc de bois dont une surface est plane, un dessin, un motif, et ensuite le contour du dessin est ensuite creusé avec différents outils, que ce soit un canif, un burin, des ciseaux ou pourquoi pas une gouge. Et ensuite, ce contour donc, qui est gravé va apparaître en blanc à l'impression. Donc ça demande aussi, par rapport à cette gravure, par rapport à son créateur et à la personne qui va vouloir reproduire sur un support en papier à partir de cette notion, la notion d'inversion en quelque sorte entre le noir et le blanc. Puisque lorsque la taille initiale est terminée, le dessin va apparaître en relief sur ce support en bois, et donc on va ancrer ensuite ce relief ou le relief de cette matrice avec un rouleau ou un tampon imbibé d'une encre qui de préférence suffisamment ferme pour ne pas couler entre les creux et pouvoir faire vivre justement ces lignes en négatif. Une autre technique qui est la gravure dite taille douce, qui est une gravure cette fois-ci en creux, qui se pratique le plus souvent sur du cuivre ou des plaques. Et l'encre cette fois-ci va se déposer dans les creux qui sont gravés à même la plaque. Et donc l'impression ensuite se fait par pression à partir de cette plaque. Je ne vais pas rentrer dans toutes les techniques de reproduction, encore une fois, là on fait de grands sauts dans l'histoire. Je voulais juste évoquer, parce qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard, ce qu'on appelle le coulage. Le coulage, en fait, c'est une technique de façonnage qui va se développer au XIXe siècle, et particulièrement à partir de 1850, et qui va consister à faire couler de la pâte, une pâte liquide, pour le coup, dans des moules, et qui va permettre du coup de vraiment développer de façon quasi industrielle justement la diffusion de motifs et notamment de sculptures. Là on vient à quelque chose plus en trois dimensions. Et enfin pour évoquer le XXe siècle, même si évidemment la photographie apparaît dès le début du XIXe siècle, la photographie, la pellicule cinématographique également sont des procédés et des techniques finalement qui permettent de copier et recopier à partir notamment d'une matrice que l'on appelle le plus souvent négatif et qui va servir à tirer ensuite des positifs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les dispositifs notamment cinématographiques avec les internégatifs, interpositifs qui permettent ensuite de tirer des copies de projection. En tout cas pour moi tout cela participe dans cette évolution des formes pour arriver bien évidemment à l'ère du tout numérique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On a ce genre de petits appareils, des écrans tactiles ou autres qui vont permettre avec une souris ou même maintenant avec je pense juste un doigt, gauche ou droit, on parle plutôt de clic droit me semble-t-il, pour simplement faire un copier-coller et proposer comme ça encore une fois une grande diffusion d'images avec évidemment toutes les problématiques juridiques que cela engendre. Il s'agissait là de quelques généralités. Je voulais maintenant plus préciser une partie du propos et parler de la copie comme apprentissage pour l'artiste, puisque c'est tout de même d'artiste dont nous allons parler ce soir. La copie fait partie intégrante de la création. Elle fait aussi partie intégrante de la vie et finalement tout un chacun à l'école apprend à écrire également en recopiant les lettres. Voilà. Je trouvais plutôt intéressant d'avoir ce petit cahier d'écolier ici avec cette lettre T qui est déclinée et qui du coup part également en quelque sorte d'une matrice hein, et ensuite tout un chacun en fonction de son écriture, qu'il soit gaucher ou droitier, va s'approprier cette graphie. Et ben, en tout cas, apprend à écrire à travers la copie. Et donc, comme je disais, la copie fait partie de la création. La copie, en quelque sorte, dans l'apprentissage dit classique des artistes, la copie, en fait, c'est le premier temps. Et l'œuvre, en général, du passé, va permettre de faire évoluer également la propre démarche de l'artiste qui va s'approprier en copiant des formes du passé et en proposer une relecture. Donc l'histoire de l'art, évidemment, je vais revenir un peu plus tard dans le passé, c'est assez compliqué hein, cette temporalité. En tout cas, là, il me semblait intéressant de commencer dans cet apprentissage de l'artiste avec cette toile de Samuel Morse qui, en fait, ici, nous peint ou nous dépeint en quelque sorte hein, la galerie du Louvre dans les années 1830. Et ce qui est intéressant dans cette vue, bon, c'est d'une part de voir l'accrochage très dense à l'époque au muséum, le musée du Louvre, et surtout de voir que des copistes sont à l'œuvre dans les galeries de peinture. Donc très clairement, il était à l'époque évidemment très, très important dans le parcours académique de l'artiste de pouvoir prendre la mesure de ceux et celles, malheureusement plutôt ceux qui l'ont précédé dans l'histoire de l'art, et donc l'apprentissage de l'art, en tout cas, se faisait bien évidemment par la peinture. Alors, quelques exemples. Ici, avec alors, du coup, un original du Titien, la Vénus d'Urbino. La Vénus d'Urbino, en fait, est une toile hein, qui est commandée par le duc d'Urbain, Urbino, donc en italien. Le sujet mythologique ici importe finalement assez peu, une Vénus, puisque l'idée du Titien et de la commande, en fait, est un prétexte pour surtout proposer la figure d'une femme nue, allongée, le repos d'une Vénus, qui met en évidence la beauté et l'attrait donc, de ce corps féminin. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au XVIe siècle, on attribue une sorte de puissance magique aux images. Et il est finalement recommandé dans les grandes demeures d'accrocher de belles nudités, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, dans les chambres à coucher notamment, des épouses qui, semble-t-il, va permettre ou favoriser, ce que l'on croit à l'époque, la fécondation et surtout faire en sorte que son enfant soit plus beau. Je ne sais pas si cela, mais, sur quels critères également on se base. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, de cette toile à la facture, on va dire, classique de la Vénus. Alors, je vais revenir un peu plus loin sur cette notion de Vénus et d'idéal de corps féminin qui avait copié et recopié pendant toute l'histoire de l'art. Mais juste pour venir sur cette notion d'apprentissage, voilà, on a ici une seconde Vénus d'un certain William Etty. William Etty, qui est un artiste britannique, qui est notamment connu pour avoir justement copié de nombreuses toiles de maîtres de la Renaissance, puisque l'artiste, au moment de son apprentissage, effectivement dans l'école des Beaux-Arts, à l'Académie, se devait de faire un peu un tour d'Europe et bien évidemment de l'Angleterre, se rendre en Italie et découvrir de visu les toiles de maîtres. Et idéalement également de pouvoir en proposer des copies, alors que ce soit des copies ici des huiles sur toile, mais comme je disais aussi la gravure, le dessin, l'esquisse hein, ont également permis de reproduire de nombreux modèles qui, du coup, vont, au fil des siècles et des années, se diffuser. Alors, du coup, c'est intéressant de voir l'original et la copie. J'ai pris un certain plaisir, en quelque sorte, à faire ce diaporama. Cette toile a la particularité d'avoir quasiment exactement les dimensions de la toile du Titien. Et en fait, il s'avère que William Etty était finalement tellement fier et très heureux de cette copie de Titien qu'il a décidé de la rapatrier, de la renvoyer bien évidemment en Angleterre. Et alors, pour boucler en quelque sorte la boucle, cette toile aujourd'hui se trouve dans les collections de la Royal Scottish Academy of Art and Architecture d'Édimbourg et donc sert également et a servi pour les étudiants dans cette école d'art du coup écossaise. Donc voilà, on est vraiment finalement dans quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, d'une copie, d'un original, qui fait finalement peut-être office d'original dans les murs de cette noble académie. Alors, il y a eu de nombreuses copies, de nombreux maîtres dans toute l'histoire de l'art. Je voulais juste faire un petit aparté sur le fameux concert champêtre, encore Titien. Aussi, tout simplement, parce que je vous invite à aller au Louvre et voir les originaux, bien évidemment, de l'étoile dont je parle. Donc là, on est vraiment avec ce concert champêtre qui a pendant un certain temps été attribué à un autre peintre, Giorgione, dans une idéalisation de la nature et du rapport du corps aussi et la façon dont il s'inscrit dans ce type de paysage. Et ce qui est intéressant, c'est que William Etty, encore lui, va faire une copie. Alors, désolé, la reproduction est un petit peu moins de bonne qualité, mais on voit malgré tout la différence entre l'original et la copie. Et là, il faut savoir que, en fait, là, finalement, William Etty n'est finalement plus si jeune que cela, hein, lorsqu'il peint cette toile. Donc, c'est 7 ans après la Vénus d'Urbino. Il a déjà 43 ans. Il mentionne lui-même en fait les circonstances de l'exécution de cette toile, qui date donc précisément de juillet 1830. Il précise qu'il a terminé une étude d'un beau tableau de Giorgione, puisqu'à l'époque la toile est attribuée non pas au Titien mais à Giorgione. Et c'est une toile en fait qu'il souhaitait reproduire depuis très longtemps. Ça, c'est ce qu'il va dire. La copie finalement ici est assez fidèle, d'une belle intelligence, d'une facture peut-être un peu plus fluide, peut-être sensuelle hein, finalement que chez le Titien, qui du coup dans cette copie prend également les marques hein, de seconde moitié du 19e siècle. Une autre copie, toujours le concert champêtre, cette fois-ci d'Alexandre Cabanel. Cette toile est conservée au musée Fabre à Montpellier. Alors, la façon dont cette toile est considérée, c'est qu'en fait, il y a quelques hardis, j'utilise les guillemets et je reprends les termes de cet historien de l'art qui s'appelle Boime, qui dès l'époque disait que cette toile, en dehors de quelques hardis coups de pinceau, présente des modifications par rapport à l'original, qui est en fait la palette. Alors, du coup, on va revenir rapidement à l'original. Et effectivement, là, on est chez Cabanel un accent qui est mis davantage sur des effets lumineux. Les figures sont peut-être un peu plus trapues et ça donne aussi un côté peut-être un peu plus lourd en quelque sorte aux figures qui étaient initialement peintes par le Titien. Alors là on est vraiment en quelque sorte dans une volonté hein, de faire des copies quasi identiques à l'original et bien évidemment c'est ce qui va faire toute la modernité. Ce concert champêtre va nous amener au fameux déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet. Alors là, je ne vais évidemment pas rentrer encore une fois dans le détail de cette toile, mais on est cette fois-ci dans la seconde moitié quelques dizaines d'années plus tard, du moins après l'étoile de William Etty et d'Alexandre Cabanel, avec cette fois-ci, en quelque sorte, une émancipation absolument totale par rapport à l'original et une volonté d'inscrire ce concert champêtre du Titien dans une contemporanéité qui est celle de 1863 avec ces hommes, évidemment de façon très ironique, qui sont habillés de façon à la mode finalement de cette seconde moitié du 19e siècle. Alors du coup, cette grande, là on est plus dans une copie au sens très très large du terme, et c'est justement ce qui m'intéresse, c'est de voir que finalement la copie est également un vecteur idéal de circulation des formes. Alors, une copie au stricto sensu, mais également avec parfois quelques libertés qui vont en quelque sorte provoquer peut-être une sorte de dégénérescence, d'évolution des formes à partir d'un original. Il faut savoir également, au XIXe siècle, ou dans la première partie du XIXe siècle, alors autant la gravure a eu un rôle assez important, hein, dès la Renaissance, entre l'Italie et l'Europe du Nord, entre l'école flamande et les écoles italiennes, pour justement pouvoir échanger et proposer aussi justement une circulation des formes et d'inspiration. Il faut savoir aussi que les marchands d'art, en quelque sorte, avaient des sortes de valises, un petit peu comme des VRP, dans lesquelles on retrouvait des miniatures, des toiles qu'ils pouvaient vendre. Voilà. Donc ça, c'est un objet absolument incroyable, qui ressemble presque à une sorte de petit retable que l'on trouve au musée de Francfort et qui consiste en fait en un cabinet de miniatures qui était à disposition donc, de ces vendeurs, de ces marchands d'art, pardon, donc les Morgenstern, précisément. On va faire un petit retour dans l'histoire et je voulais vous parler d'un motif, du coup, et puisqu'on parle de circulation des formes, vous parlez, donc, en italien, on appelle le spinario, donc le tireur d'épines, qui est en soi d'ailleurs, donc là c'est une des sculptures les plus anciennes que l'on connaisse aujourd'hui, mais qui elle-même, donc on va dire d'époque romaine, un bronze, mais qui s'inspire elle-même et qui reprend, semble-t-il, très clairement un marbre, évidemment, grec. Effectivement, toute on va dire, l'iconographie romaine s'assoit, s'inscrit et reprend toute une iconographie grecque. Donc c'est vrai que, on va dire, les originaux grecs, même si malheureusement un grand nombre d'entre eux ont totalement disparu aujourd'hui, ont pu exister et nous sont parvenus grâce à des copies d'époque romaine, lorsque Rome a pris vraiment la mainmise sur le bassin méditerranéen. Et donc du coup, ce tireur d'épines, et comme une grande partie d'ailleurs des antiquités, vont être redécouverts à la Renaissance, et on va retrouver de façon peut-être presque insidieuse cette figure du tireur d'épines dans de nombreuses toiles ou fresques d'artistes de la Renaissance. Et notamment ici, le Pérugin, Perugino, dans cette scène du baptême du Christ que l'on peut voir dans la chapelle Sixtine. Et alors j'imagine, est-ce que vous avez vu où se retrouve ce tireur d'épines? Alors évidemment, il ne s'agit plus d'un tireur d'épines en soi, mais effectivement, sur la droite de cette scène de baptême, on retrouve cette figure assise, avec voilà, cette position d'une jambe repliée sur le genou, et un personnage dont le buste, en quelque sorte, ça s'avance. Et donc ça, en fait, c'est assez intéressant de voir que ce tireur d'épines, finalement, va apparaître comme ça, de façon, je dirais pas subliminal, mais de façon récurrente dans de nombreuses œuvres de la Renaissance, et notamment chez un artiste chez qui j'ai pu retrouver trois occurrences finalement, ou trois retours de cette figure, peut-être parfois décalée, du tireur d'épines, et notamment Luca Signorelli, pardonnez-moi, je ne parle pas du tout italien, mon accent est affreux. Signorelli est en fait un peintre originaire de Cortone. Le père de Signorelli lui-même était déjà établi dans cette même ville, une ville prospère, hein, qui est située à la frontière entre la Toscane et l'Ombrie. Et Luca Signorelli va faire son apprentissage dans les ateliers de Piero della Francesca et de Verrocchio dans les années 1460. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que Luca Signorelli a également été disciple du Pérugin. Donc, je les imagine peut-être tous les deux découvrir pour la première fois le tireur d'épines et se dire, tiens, peut-être qu'on pourrait l'introduire dans l'étoile. Donc, tout ça, c'est assez intéressant. Pardon, je veux bien parfois essayer d'inventer des petites anecdotes. Ça rend les choses peut-être plus accessibles aussi. Le premier poste, en fait, de Luca Signorelli, c'est effectivement, donc, comme je disais, celui d'assister vraiment le Pérugin avec lequel il collabore sur les fameuses fresques de la chapelle Sixtine. Donc, c'est intéressant de voir que cette figure, on la retrouve ensuite chez Signorelli, notamment dans cette Vierge à l'enfant, c'est-à-dire un motif somme toute traditionnel, dans un paysage avec une atmosphère lumineuse, avec des coloris chauds et vifs. Et donc là aussi, lorsque l'on regarde à l'arrière-plan, on voit encore une fois cette figure du tireur d'épines. Là, il s'agit en quelque sorte d'un motif d'un jeune homme qui semble remettre une sandale, qui a été identifié par certains historiens de l'art comme étant Saint Jean-Baptiste, ou parfois comme une sorte de personnage un petit peu arcadien, tout comme le concert champêtre, on est vraiment là dans des paysages propres à l'Arcadie, un paysage totalement idéalisé. Et peut-être que là, il serait en train de se dévêtir en vue de son baptême. En tout cas, voilà, c'est toujours un peu complexe de lire l'iconographie de ce type de toile. Ce qui est intéressant, c'est que Signorelli, quelques années plus tard, va à nouveau reprendre ce motif du tireur d'épines, alors dans un retable. Ici, il s'agit de deux hommes nus, mais qui faisaient partie d'un retable, semble-t-il, beaucoup plus conséquent, qui a été démantelé, donc une grande partie a malheureusement disparu, et dont ce panneau se retrouve aujourd'hui au musée de Tolède, dans l'Ohio, aux États-Unis. Encore une fois, Signorelli, avec un autre baptême du Christ, qui est toujours présent dans la collégiale Saint-Médard, dans la ville d'Archevia. Et donc là, encore une fois, on découvre au centre ce personnage du tireur d'épines qui est vraiment relu et repris, réitéré en quelque sorte comme motif dans l'étoile de Signorelli. Alors évidemment, Signorelli, et là ça devient vraiment intéressant, n'est pas le premier à en quelque sorte reprendre ce type de motif, et dès l'Antiquité, voire même justement dès l'époque grecque, alors c'est intéressant parce qu'on n'a plus l'original grec du tireur d'épines, on a une copie romaine, mais dès l'époque grecque il y avait déjà des personnages un petit peu humoristiques qui reprenaient justement ces images canoniques. Bon, voilà, on est vraiment en mesure de se demander, donc ça, on est vraiment un tout petit objet qui fait 7 cm, mais en tout cas il y avait une diffusion également des formes de façon très ironique, très humoristique aussi, avec voilà, ce type de posture, évidemment, que l'on trouve donc là à nouveau avec, entre guillemets, l'original, puisqu'il s'agit, comme je vous disais, il s'agit d'une copie en bronze. Autre motif, évidemment, qui traverse les siècles, c'est évidemment la figure de la Vénus. Alors, on l'a évoqué avec la Vénus d'Urbino, qui elle-même donc, s'inspire des Vénus classiques. Et donc ici, la fameuse Vénus de Milo, cette Aphrodite. Alors, donc cette sculpture qui a été découverte donc, sur cette île de Milo en Grèce et qui a été rapatriée en France dans les années 1820, elle s'inscrit vraiment dans une esthétique, une idéalisation du nu féminin par excellence, peut-être une forme de sensualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a également, par exemple, une autre Vénus, alors que on compare souvent la Vénus de Milo et cette autre Aphrodite, la Vénus de Capoue, qui se trouve dans les collections du musée archéologique de Naples, à la différence... Petit problème au niveau des dates, mais en tout cas, à la différence de la Vénus de Milo, cette Vénus de Capoue, elle a été complètement, reconstituée, notamment au niveau des bras, au moment de sa découverte, donc à une époque beaucoup plus moderne. Donc évidemment, c'est aussi intéressant de voir que, et ça pourra faire l'objet bien évidemment je vais l'évoquer tout à l'heure, mais cette notion d'assemblage et de collage à partir justement d'originaux classiques, antiques, qui vont être en quelque sorte agrégés à des parties beaucoup plus contemporaines. Alors cette Vénus de Milo, évidemment, elle a inspiré de nombreux artistes. Je ne pouvais ne pas faire l'impasse sur cette version en quelque sorte en bois, beaucoup plus, peut-être beaucoup moins voluptueuse en quelque sorte, de Jim Dine, donc avec cette Black Vénus qui date de 1991. Donc pour moi, vraiment, ce qui me semble intéressant, c'est de montrer qu'à travers les siècles, finalement, on a des figures comme ça, quasiment immuables, et qui vont circuler et être relues, revues et corrigées. On est aussi dans une ère, en quelque sorte, où les musées doivent faire un maximum de chiffres et donc vendre de nombreux produits dérivés. Et évidemment, c'est toujours assez ironique de voir que cette Vénus de Milo devient aussi un objet que tout un chacun peut avoir en porte-clé, ou là, en l'occurrence, une sorte de bibelot, donc une sorte de Vénus de Milo pop, cette fois-ci coulée en résine. Et édité par la boutique de la Réunion des musées nationaux, alors sous couvert bien évidemment scientifiquement que nous connaissons justement ces nus ou ces sculptures en marbre aujourd'hui d'une blancheur quasiment immaculée. Il faut savoir qu'il y avait une polychromie très importante à l'époque grecque et romaine. Cette polychromie a disparu, donc voilà, je pense que l'idée marketing derrière cette édition. Alors ça coûte pas très cher. Je crois que c'est 160 euros l'espèce de. Pardon, excuse-moi, je n'ai aucun jugement de valeur. Cette petite reproduction en résine, voilà, coûte 160 euros. Et donc l'idée était de reprendre des coloris qui auraient pu être sur le marbre d'origine. Alors, je ne sais pas sur quelles études scientifiques. On va dire c'est commerciaux, on va dire clairement, se sont basés. En tout cas, le fait de colorer des Vénus, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi, évidemment, avec Yves Klein. Et cette Vénus bleue, alors là, pour le coup, l'origine n'est pas la Vénus de Milo à proprement parler, mais une autre Vénus qu'on conservait au Louvre, mais qui, en quelque sorte, voilà, ça apparente aussi dans un type de facture. Et donc ce qu'a fait tout simplement Yves Klein, il a fait un moulage, il a récupéré un moulage de cette Vénus d'Alexandrie, qu'il a recouvert de son fameux IKB, le bleu hein, dont il avait déposé le brevet. Si on revient à notre Vénus de Milo, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Salvador Dali, d'une façon beaucoup plus surréaliste, va se réapproprier cette forme, et cette fois-ci en proposer une vision beaucoup plus surréaliste, avec cette Vénus à tiroir dont les anses sont composées de petits pompons en fourrure. Évidemment, la Vénus de Milo va également, en quelque sorte, intégrer la culture populaire et pourquoi pas peut-être certains jardins en tant que décoration et en tant que copie. Ce qui va inspirer un artiste très contemporain, l'exposition je crois est encore présentée à Paris Rive Gauche à la galerie Éric Mouchet, il s'agit de Cyril Zarkon, qui justement lui est arrivé à cette figure de la Vénus de Milo à travers en fait la visite d'un magasin qui propose des moulages en plâtre pour décorer les jardins. Donc on est là dans une circulation des formes qui va vraiment atteindre absolument tous les niveaux et qui du coup il va récupérer ces fameuses reproductions et faire de cette Vénus une sorte de fontaine. Donc l'exposition, évidemment, il y a un côté très ironique. Avec cette icône en quelque sorte qui se transforme en bassin et en même temps renvoie également par rapport à cette copie qui est effectivement censée décorer des jardins d'intérieur ou pas d'ailleurs. Autre canon esthétique féminin, on fait quelques sauts de quelques siècles, avec cette fois-ci Jeanne Bécu, la fameuse comtesse du Barry, avec ce buste commandé par Louis XV. Madame du Barry était bien évidemment la dernière maîtresse de Louis XV, semble-t-il d'une exceptionnelle beauté. Et donc Augustin Pajoux, qui était le sculpteur officiel de la cour à cette époque, et on lui commande du coup la création de ce buste. Alors il faut savoir que là on est aussi du coup au XVIIIe siècle, dans une sorte de, à la fois un classicisme, une facture qui s'inspire évidemment de la statuaire antique, mais également le début d'une ère plus romantique en quelque sorte, hein, puisque cette Madame du Barry nous semble assez vaporeuse, une bretelle de sa robe est détachée, et on est dans quelque chose de peut-être un peu plus naturel en quelque sorte, on est en tout cas dans un drapé qui évoque l'Antiquité et à la fois le romantisme. Ce qui est intéressant, c'est que ce buste va réapparaître et va être édité par la manufacture Sanson. Alors la manufacture Sanson, c'est une manufacture qui était en activité dès la seconde moitié du XIXe siècle et qui va perdurer jusqu'à la fin des années 1970 et qui vont vraiment et très clairement reproduire des œuvres. Alors du coup, ça induit aussi cette notion, s'agit-il de faussaire ou de non-faussaire. Je vous invite à voir un très beau film à ce sujet d'Orson Welles, qui s'appelle F for Fake, Vérité et mensonge en français, et qui raconte l'histoire d'un vrai faux faussaire, je ne vais pas dévoiler l'intrigue, liée notamment à l'histoire de Picasso. Donc la notion de faussaire ici échappe finalement en quelque sorte, puisque ils avaient vraiment et très clairement pignon sur rue. Comme je disais, hein, cette notion de plagiat à l'époque n'existe pas juridiquement de la même façon qu'elle existe aujourd'hui. Je vais revenir un peu plus loin. Donc là, on est vraiment dans un biscuit, qui est vraiment un type, hein, de porcelaine très très particulier, avec effectivement cette petite différence qui est donc le socle en quelque sorte de ce buste sur lequel est peint le monogramme de la comtesse du Barry. Je vais continuer justement sur ces sortes de petits bibelots, parce qu'on peut vraiment parler là de bibelots avec la comtesse du Barry. On peut peut-être aussi parler de bibelots en ce qui concerne notre ami Rodin. Rodin, évidemment, sculpteur très important, qui fait ce passage justement entre le classicisme et la modernité, qui va pas hésiter à laisser les traces du modelage, les traces de la main sur un certain nombre de sculptures, et en même temps essayer de synthétiser en quelque sorte parfois les plus beaux sentiments, notamment à travers ce baiser, donc une fusion amoureuse absolument incroyable, une icône en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est que Rodin, de son vivant, va signer de nombreux contrats avec différents fondeurs pour justement proposer des réductions de ce baiser en bronze. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que là, c'est toute l'intelligence de Rodin, c'est comment diffuser son œuvre. Il va vraiment, il lui-même d'ailleurs appeler ce type d'objet des bibelots. Pour lui, c'était vraiment la quintessence au niveau des arts décoratifs, et notamment on en trouve encore sur le marché pour le plus petit. Si vous avez entre 25 000 et 30 000 euros à débourser, vous pouvez trouver un Rodin, sachant qu'il s'agit d'un vrai faux original, mais en tout cas d'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Rodin, il y avait vraiment l'idée que son œuvre, en quelque sorte, se retrouve disséminée un petit peu partout, dans les foyers, je ne dirais pas tous les foyers de France bien évidemment, mais dans tous les foyers bourgeois de l'époque, qui pouvaient s'octroyer à l'époque ce type, ce type de pièces et c'est évidemment tout à fait intéressant. Une autre notion que je souhaitais aborder, c'était le fait de copier, réviser, ou copier pour réviser et corriger, avec quelques cas qui me semblaient plutôt intéressants, et notamment ici une toile d'Horace Vernet, avec cette toile, hein, cette scène, on va dire, quasi mythologique hein, de Mazé Paolo, une première version qui date de 1826. En fait, Horace Vernet pratiquait l'escrime. Et très souvent, dans son atelier parisien, il recevait de nombreux amis et parfois, un coup de fleuret pouvait tout simplement déchirer une toile qui se trouvait à proximité, ce qui est arrivé malheureusement à ce Mazé Paolo. Et ce qu'a fait Horace Vernet, c'est qu'il a refait exactement une toile identique. Donc la première toile a été restaurée et il a refait une toile identique. Et je vous invite, si vous avez l'occasion, d'aller au musée Calvet en Avignon, où vous pourrez voir en fait ces deux toiles réalisées à quelques années de différence, quasi identiques, si ce n'est que sur l'une d'entre elles, on a vraiment la trace de la déchirure en fait, lors de ce jeu d'escrime. Voilà, donc il est aussi intéressant de voir que les artistes eux-mêmes, parfois, pouvaient copier leur propre toile aussi pour réparer et proposer une autre version, identique ou pas, justement. Alors là, on est un peu plus dans une forme de culture dite populaire, mais finalement tout à fait noble, avec Hergé et Tintin, et notamment cet album de L'île noire, dont la première publication date de 1943. Et dans les années 60, on demande à Hergé une réédition, ou du moins de redessiner certains des albums pour de nouvelles éditions. Et donc, Hergé décide de moderniser en quelque sorte de nombreuses planches de cette aventure de Tintin et de L'île noire. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est de comparer ces deux séquences, puisqu'on a là vraiment quelque chose... on va dire dans le défilement, dans la planche, ces vignettes hein, qui sont toutes de dimension identique. Une action qui également reste absolument identique. Alors je suis désolé, on ne voit pas très bien, mais du coup, ce que l'on peut dire, hein, et le texte hein, dans les bulles reste le même, à savoir « Malheur, je me suis trompé, ce n'est pas la clé du garage ». Et voilà, ce pompier tombe sur sa femme qui effectivement se rend compte entre-temps que son mari s'est trompé de clé. Du coup, ça crée presque une sorte de décalage. Les tintinophiles ont tendance à dire que finalement, peut-être qu'il est logique en 1943 d'avoir une porte de garage qui s'ouvre avec une clé, somme toute banale. En revanche, en 1966, avec un aussi beau camion rutilant, il semble un peu presque désuet d'avoir une porte avec une clé aussi simple. Donc, du coup, Hergé a recopié cette séquence. À moderniser tout en gardant certains aspects d'origine qui du coup paraissent quasiment désuets. Alors la notion de, quand on parle de copie, on pense à ce fameux copier-coller, hein, le fameux clic droit ou gauche, je ne saurais le dire. Là c'est juste l'idée de montrer que les artistes finalement, avant l'arrivée de l'informatique, pouvaient aussi faire des copier-coller. Et ici, cette toile d'Hubert Robert, qui nous présente les monuments de Paris. En fait, c'est un petit peu comme s'il avait copié-collé les différents monuments de Paris. Donc on retrouve ici la porte Saint-Denis, on retrouve évidemment le Panthéon, la colonnade du Louvre de Perrault. Et finalement, il a copié et recollé les uns d'un côté des autres ces monuments qui, évidemment, géographiquement, spatialement, à Paris, ne sont pas du tout au même endroit. C'était juste un petit clin d'œil que je souhaitais montrer là, avec cette notion de copie et de collage. Pour revenir également à Rodin, puisqu'on parle de copier-coller, avec ce que l'on appelle les abatis. Rodin pratiquait ce que l'on appelle le marcottage. Alors, le marcottage, on aura l'occasion d'en voir une sorte de visualisation plus contemporaine dans l'exposition Le Dandy des Gadous. Le marcottage en botanique, c'est ce qui permet de faire des boutures, et c'est un terme du coup, qui est utilisé également en sculpture, et notamment chez Rodin, puisque Rodin façonnait, avait des copies comme ça, innombrables d'abatis, donc il s'agit de bras droits, de jambes, et qu'il assemblait ensuite au gré de ses expérimentations. Et donc ce qui est très très beau, évidemment, c'est de voir dans ce type d'assemblage et dans les réserves du musée Rodin, des tiroirs entiers remplis d'abatis, et de voir finalement on a comme ça des copies justement voilà, qui peuvent aussi évoquer à la fois les recherches on va dire sculpturales de Rodin, mais aussi des modèles beaucoup plus antiques. Il faut savoir que Rodin a collectionné également les antiques, que ce soit grec, romain, mais également égyptien. Donc il y avait aussi une source d'inspiration, ou une relecture, encore une fois, par cette fameuse circulation des formes à travers la copie, Rodin ayant acheté de nombreuses copies d'antiques. Une autre copie, alors cette fois-ci un copier-coller, mais avec peut-être une augmentation avec Sébastien Bouju, que l'on va retrouver également dans l'exposition Le Dandy des Gadous, avec ici ce poulailler. Donc, encore une fois, chez Sébastien Bouju, il y a la volonté, à travers le tissu, à travers la céramique, à travers le dessin, de visualiser finalement des images un peu ironiques, des jeux de mots. Vous le verrez notamment là aussi, après, dans l'exposition Le Dandy des Gadous, on trouve un flamant rose assez particulier. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il récupère finalement des cruches. Et ces cruches sont elles-mêmes en fait aussi produites de façon industrielle, donc ce sont des copiées, et auxquelles il va adjoindre, sous la forme d'un assemblage, justement, ces têtes de coqs, voilà, et créer cette espèce de poulailler très, très, très ironique. Il faut que j'aille très vite, il me reste malheureusement très peu de temps, parler de quelques copies architecturales également, puisque la copie, évidemment, pourrait s'appliquer à de nombreuses disciplines, comme je le disais. Et voilà, je vais vous montrer ici une image. Et je vais vous faire travailler un petit peu. Que reconnaissez-vous ici ?
Versailles.
On dirait Versailles. Alors effectivement, alors non, c'est pas vos vicomtes, on dirait Versailles. Alors effectivement, c'est bien d'utiliser ce conditionnel et on dirait Versailles, parce que effectivement, on a vraiment l'impression là de voir la façade côté jardin de Levaux et Mansart à Versailles. Il s'agit en fait d'une copie à l'identique. Réalisé par cet architecte Georg von Dohmann à la demande de Louis II de Bavière. Louis II de Bavière, voilà, personnage d'Andiès, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, qui avait en quelque sorte la folie des grandeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette seconde moitié, cette fin du XIXe siècle, on est vraiment dans une forme d'éclectisme architectural où on va vraiment mélanger mélanger les genres, excusez-moi, et copier les styles du passé pour en proposer aussi une relecture, se réapproprier l'histoire. Il n'est pas anodin que Louis II de Bavière fasse référence, bon, voici le vrai, en quelque sorte, Versailles, fasse référence à Louis XIV. Louis II de Bavière était un moment aussi assez complexe, considéré comme un roi de pacotille. L'unification de l'Allemagne était en train de se profiler par ailleurs avec Bismarck, et donc il fallait qu'il assure et qu'il assume également une forme de pouvoir, et donc faire référence à la grandeur en quelque sorte de Louis XIV était pour lui quelque chose d'assez important. Au-delà de Versailles, évidemment, par rapport, je parlais d'éclectisme architectural, on peut penser aux châteaux néo-médiévaux que Louis II de Bavière a fait construire, hein, qui ont eux-mêmes d'ailleurs, donc s'inspirent des châteaux féodaux, qui eux-mêmes s'inscrivent en quelque sorte, ou du moins vont inspirer notamment certains châteaux, pour le coup vraiment de pacotille, si on pense au parc Disney. Voilà. Donc voilà, encore une fois, une circulation des formes, cette fois-ci une plus grande échelle, qui est celle de l'architecture. Évoquer également le cinéma, voilà, et là, trop rapidement, mais on pourra encore une fois faire une présentation plus spécifique à cette notion, avec ce que j'appelle la copie cinéma. D'ailleurs, en cinéma, je parle du cinéma argentique, à l'origine, on parle évidemment de copie. On a un original, et ensuite on va tirer des copies de projections. Ce qui est intéressant, c'est que ces copies, on perd les originaux. Je parle de films dans la première, les 20 premières années du 20e siècle, on perd parfois les originaux, et ce qu'il va rester, ce sont des copies. Et ce qui est intéressant, c'est que ces copies de projection, selon les pays, étaient modifiées. Puisque les films, je parle par exemple de films muets, où on changeait notamment les cartons, les intertitres, selon la langue du pays où était diffusé, projeté ce film. Et du coup, alors c'est tout un travail assez intéressant par rapport à ces copies, puisque de nombreux restaurateurs en cinéma pistent en quelque sorte ces copies, qui ne sont plus des originaux, mais qui sont de facto devenus en quelque sorte des originaux, et que l'on va comparer ces différentes copies afin de retrouver peut-être des morceaux, quelques séquences qui auraient disparu d'une autre copie d'un pays à un autre. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, voilà, tout ça est absolument passionnant. Je voulais juste là quand même vous parler de Pierre Huyghe, un artiste contemporain, puisque lorsque l'on parle de copie au cinéma, on peut également évoquer la notion de remake, refaire en quelque sorte. Et Pierre Huyghe, avec Remake, donc cette vidéo de 1995, va reproduire plan par plan, avec le cadrage quasiment identique, le film Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Et donc, il est évidemment intéressant de pouvoir comparer les deux. Alors, Hitchcock a été revu, recopié, corrigé par de nombreux artistes contemporains. Donc, là aussi, on aura peut-être l'occasion de faire une communication spécifique sur Hitchcock et l'art, parce que c'est d'une richesse absolument absolue. Autre type de copie, puisqu'on parle de cinéma, évidemment, vous pouvez ne pas évoquer un autre type, une autre technique de reproduction et de copie, qui est la sérigraphie. Donc, on verra également quelques exemples à la galerie, avec Andy Warhol, hein, qui va copier en quelque sorte cette icône de Marilyn Monroe, et qui va la démultiplier encore et encore. Donc ici on en a donc 25 qui sont reproduites. Et justement ce lien, ou cette pièce de Warhol par rapport à la copie, me permet de parler de la copie finalement dans ce qu'on pourrait appeler la pop culture, la culture populaire. Donc quelque chose de très contemporain, qui m'en échappe d'ailleurs déjà, et notamment donc cette chanteuse Lady Gaga, qui en 2010 va faire absolument ravage en se présentant à une soirée avec une robe faite de viande. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ce type de chanteuse ou de personnalité de la culture pop vont largement puiser et copier, j'utilise entre guillemets, justement, des initiatives ou des projets, des œuvres, des visuels, une iconographie issue de l'histoire de l'art. Et notamment Jana Sterbak, une artiste d'origine tchèque qui vit et travaille au Canada, qui, du coup, en 1987, donc plus de 20 ans avant Lady Gaga, avait déjà réalisé une sorte de vanité, en quelque sorte, hein, et montré que le temps passe, que la peau, enfin, voilà, c'est toute une réflexion sur le corps, la décomposition du corps, une forme de dégénérescence des tissus organiques également, puisque l'installation consiste, en fait, il faut recréer à chaque fois cette robe en viande qui est présentée sur un mannequin en métal, et à côté est présentée donc, la photo de 1987 où on voit l'artiste porter cette fameuse robe. Et donc le temps d'exposition, la robe en viande va évidemment se évoluer. Alors c'est intéressant aussi par rapport à Lady Gaga, c'est que, et là on en vient à des questions un peu plus juridiques, Lady Gaga a été attaquée par de nombreuses artistes performeuses, que ce soit notamment Marina Abramovic ou Orlan, on a peut-être déjà entendu parler. Donc, voilà, c'est intéressant de voir comment la culture populaire va vraiment puiser dans une forme d'underground, dans une histoire des arts qui peut être moins accessible aux tout-venants. Et je pense ici notamment à ce qu'on appelle le voguing. Alors le voguing, c'est en fait quelque chose qui apparaît à la fin des années 1970 dans le New York underground, notamment dans la communauté afro-américaine et la communauté queer, où de jeunes gens vont reproduire à travers ce qu'on appelle des maisons, des poses ou des postures de mannequins issus des magazines Vogue des années 30. Donc là, par exemple, il y a un film assez important qui date de 1989 qui s'appelle Paris is Burning, Paris est en feu, et qui documente vraiment tout cet univers très étrange où ces jeunes gens se réunissent, font des concours, des sortes de faux défilés de mode avec une musique, et tout en reproduisant, en copiant justement les mannequins des magazines Vogue. Évidemment, ce type de... j'ai séparé par-dessus. Ce type de voguing, de pratique underground, de sous-culture, va être repris par des artistes un peu plus mainstream, tout est relatif. Dans un premier temps, ici, Malcolm McLaren, en 1989, qui va collaborer directement avec certains, justement, certains des jeunes gens qui participent à ces balles de New York des années 80. Avec évidemment une musique qui me semble aujourd'hui très très datée. Je vous montre juste la séquence, on va voir une autre vidéo après qui semble être aussi une copie ou s'inspirer de façon... Donc là, on est en 1989. Alors, Malcolm McLaren, c'est aussi quelqu'un qui est très proche du folk underground. Hein. Il était très proche des Sex Pistols, et donc du mouvement punk dans le monde, là aussi la fin des années 1970. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment servi de lien entre des cultures underground et des cultures beaucoup plus, on va dire, mainstream, beaucoup plus accessibles. Et du coup, on va arriver cette fois-ci, je vais le mettre plutôt sur la fin de la vidéo. Quelques mois plus tard, une pop star à l'échelle internationale, qui n'est autre que Madonna, va également s'inspirer, alors pour ne pas dire copier, mais je vais y revenir un peu plus tard, justement ce voguing, et pour le coup le diffuser de façon en 1990. Hop, juste un petit peu trop loin. Donc là, on est encore une fois dans une façon de se réapproprier donc cette pratique du voguing, donc cette danse qui propose de relire justement, de rejouer les poses des mannequins dans le magazine Vogue. Alors, c'est même assez intéressant parce que musicalement, je dirais pas qu'on est dans une copie de ce qu'a composé McLaren, mais voilà. Alors, je vous invite aussi à regarder évidemment cette image en particulier, on voit la chanteuse de dos. Puisque du coup, alors, Madonna la copieuse, en fait, en quelque sorte, voilà, c'est un petit peu comme David Bowie, comme de nombreuses pop stars, a vraiment puisé dans l'histoire des arts, pour en fait se réapproprier. On disait tout à l'heure que Madonna est considérée comme la reine de la réappropriation culturelle, et donc là, on l'a vu tout à l'heure avec cette image de dos. Qui évidemment n'est pas sans évoquer cette photographie justement du magazine Vogue faite par Horst Pihorst. Alors, il faut que j'aille très très vite maintenant. Autre cas d'école en quelque sorte avec Madonna qui l'a amené en fait à avoir quelques petits soucis juridiques, puisque donc en 2003, Madonna réalise une vidéo. Et en fait, on est en juin 2003, et quelques semaines plus tard, Madonna est attaquée en justice par en fait Samuel Bourdin. Samuel Bourdin, c'est en fait le fils de Guy Bourdin, et Guy Bourdin est un photographe de mode français qui, dans les années 70 et 80, va beaucoup diffuser son travail dans de nombreuses revues, notamment Vogue, encore une fois. Et en fait, Bourdin, au moins l'estate ou la succession de Guy Bourdin, qui est décédé en 2003, décide d'attaquer la chanteuse pour plagiat. On a ici par exemple, Guy Bourdin fait de nombreuses campagnes publicitaires pour Charles Jourdan, donc ce chausseur. Voilà. Et c'est intéressant, je voulais finir sur la façon dont les choses sont présentées. notamment avec donc, cette image, on voit la chanteuse à califourchon sur un téléviseur qui n'est pas sans rappeler peut-être hein, cette image de 1978. Puisque les héritiers de Guy Bourdin précisent « C'est une chose de s'inspirer, c'en est une autre de simplement plagier le cœur et l'âme de l'œuvre de mon père. » Donc du coup, la plainte fédérale de Bourdin va comprendre justement des comparaisons d'images, de séquences de cette vidéo avec les photographies des années 70 et 80. Le procès, du coup, il va avoir un procès donc, dans une cour fédérale aux États-Unis qui va nommer donc, Madonna, sa maison de disques Warner Bros. Et le réalisateur de la vidéo Jean-Baptiste Mondino comme défendeur. Et les détails présentés pendant le procès signalent finalement des facteurs tels que la composition, l'arrière-plan, la garde-robe, l'éclairage, la narration, l'angle de caméra. Finalement, le décor et les objets représentés sont trop similaires pour être uniquement un hommage. Et donc, on va considérer qu'il y a très peu de scènes ou de séquences dans cette vidéo qui, finalement, ne sont pas directement dérivées et copiées des œuvres de Guy Bourdin. Alors, du coup, là, je vous parlais justement de problèmes de juridiction, puisque donc là, on est vraiment dans un procès. Alors, il s'avère qu'un accord à l'amiable va être trouvé entre les accusateurs et les défendeurs, avec, semble-t-il, un montant qui s'élève à 600 000 dollars entre voilà, chacune des parties. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de, encore une fois de voir que voilà, l'image de Bourdin, l'image de la mode elle-même s'inspire de l'histoire de l'art. Voilà, c'est intéressant de voir ces allers-retours incessants. Il est déjà 20h07, je suis désolé, on a très très peu de temps. Ce que je vous propose, c'est de nous accompagner peut-être dans l'exposition Le Dandy des Galoux, qui traite d'une certaine façon, on pourra rentrer peut-être dans le détail de cette notion de copie, pour échanger de façon peut-être plus informelle autour d'un verre, sauf si certaines personnes d'entre vous ont déjà des questions ici. Bon, bah écoutez, je vous propose de nous retrouver à la galerie. Je vous propose à beaucoup de suivre peut-être Florence.